Bonjour.
Vous connaissez Jean-Louis et Yvonne, couple imaginaire dont je vous parle volontiers, et qui, cette fois-ci, ont quelques jours de congé. C'est le printemps. Dans mon histoire, il fait beau. Et il leur prend l'idée d'aller passer quelques jours en montagne sous tente. Enfin, soyons raisonnables, ils passeront une nuit sous tente. Mais ils veulent aussi faire de la randonnée, marcheurs qu'ils sont. Et les voilà partis dans leur voiture avec la tente igloo, avec leur sac de couchage, avec leur réchaud, petit réchaud à gaz, leur bidon plein d'eau, les gourdes pleines et tout le matériel qui va avec. Les voilà arrivés au bout de quelques heures de trajet dans une ferme auberge qui accepte quelques tentes sur son terrain. À peine la voiture encore à peine installée, mais ils ont encore laissé leurs bagages dans le coffre, dans toutes leurs affaires dans le coffre de la voiture, et les voilà partis en randonnée. Et ils marchent. Et ils arrivent enfin fourbus à la... Ils reviennent à la ferme auberge, fourbus, affamés, assoiffés. Ils arrivent à leur petit campement. Jean-Louis, plein de bonne volonté, parce que leurs gourdes sont vides, hein, évidemment, ils ont tout bu. Jean-Louis, plein de bonne volonté, ouvre le coffre de la voiture, empoigne le bidon d'eau pour recharger les gourdes et boire enfin. Et là, le bidon est affreusement léger. Léger parce qu'il s'est vidé dans le coffre. Il était fondu. Vous savez, quand on prend des vieilles affaires qu'on n'a pas utilisées depuis longtemps, qu'on oublie de les vérifier, qu'on ne se souvient plus que le bidon avait fait une mauvaise chute alors qu'il était plein et que là, ça l'avait fondu. Mais non, on ne s'en souvenait plus. Et puis, on l'a quand même rempli, plein d'enthousiasme pour l'idée de partir. Et puis, voilà. Jean-Louis et Yvonne se regardent. Ils regardent leur vieux bidon qui les a accompagnés, certes, partout, dont ils avaient l'habitude, qu'ils chérissaient de leur affection la plus tendre, mais qui est fondu. Heureusement, à la ferme auberge, là, on a de l'eau de source. Et les voilà avec, alors non pas leur bidon, mais leur gourde, à aller chercher, quémander de l'eau aux personnes de la ferme auberge qui leur ont donné bien volontiers. Amusés, Jean-Louis et Yvonne le seront moins en découvrant qu'ils avaient dans le coffre rangé les sacs de couchage à côté du bidon d'eau. La nuit sera fraîche. Il y a eau et eau. Il y a celle qu'on a, l'eau que l'on a. Il y a celle qu'on n'a pas. Il y a celle que l'on peut boire, il y a celle qui est saumâtre et qu'il ne vaut mieux pas boire. Vous vous souvenez, certains d'entre vous se souviennent que quand on arrivait à Roche-les-Blamont, au Cotate, on commençait toujours par prendre de l'eau en bouteille parce qu'on savait que l'eau du robinet n'était pas très pure et qu'il fallait d'abord habituer nos systèmes digestifs à toutes les choses qui se trouvaient dans l'eau avant de la boire franchement. Il y a eau et eau. L'eau est le symbole de bien-être dans la Bible. Il a été lu tout à l'heure, et j'en remercie Sarah, qui est quelque... Ah, te voilà. D'avoir lu le psaume 23. L'Éternel est le berger qui nous conduit près des eaux paisibles. Il y a cette femme samaritaine, dont je rappelle le dialogue, qui a été lu aussi, qui demandait à Jésus... à boire de cette eau qu'il lui donnait. Et si j'en bois, j'aurai plus soif, avait-elle compris. Il y a l'eau que l'on a et l'eau que l'on n'a pas. Et l'eau que l'on a peut être aussi symbole de danger. Dans la Bible, Psaume 18, par exemple, dit, et c'est une prière, « Dieu, relève-moi des grandes eaux ». Et les grandes eaux, c'est le danger, c'est la mort même. Et qui a connu des inondations ou des pluies torrentielles comprend ce que ça veut dire. L'image de l'eau est présente dans la Bible et nous l'avons chantée, évoquée dans nos prières tout à l'heure. L'eau est une image que nous utilisons volontiers dans notre foi. Recevoir l'eau, Sarah l'a très bien expliqué, je vais le redire avec mes mots, recevoir l'eau de Dieu, c'est vivre son pardon, c'est être rétabli dans sa paix intérieure, dans son être, c'est être désaltéré au sens où on n'était pas bien et maintenant on est bien. On peut utiliser aussi l'image d'être lavé, c'est-à-dire quand on a longuement, sur un chantier, on est plein de poussière et on prend une douche et on est lavé, ça fait du bien. Toutes ces choses sont des images de ce que produit notre foi dans notre vie intérieure. On est en sécurité car Jésus se porte garant de notre vie. Cette eau-là ne tarit jamais, quelqu'un l'a dit dans sa prière. L'Esprit Saint parle en nous, produit des effets en nous qui sont bénéfiques pour notre vie intérieure et j'espère pour nos relations aussi. Les eaux paisibles, l'eau fraîche, l'eau douce, c'est bien l'image de notre foi et de ce que produit notre foi, du bien que Dieu nous fait par elle. Une fois qu'on a dit ça, on va tous repartir en disant « Oh ben c'est bien, on va boire de cette eau, vive formidable, on va vivre dans la foi, ça va être génial et tout, on va pas prendre le bidon. » Ah mais au fait, c'est quoi l'image du bidon? Qu'est-ce que j'essaie de vous dire dans cette image du bidon fendu? C'est pas moi qui ai inventé l'image, c'est Jérémie, le prophète. Lui n'avait pas de bidon fendu, mais une citerne. Nous avons, peut-être on peut lire tout de suite si tu nous le... Ben merci. Nous avons sous les yeux une autre image encore, d'une eau qu'on a essayé de garder, mais ça n'a pas marché. C'est comme le bidon fendu d'Yvonne et de Jean-Louis. Mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et effectivement, le peuple, si la citerne est crevassée, s'il y a des fentes, ben, l'eau disparaît. L'eau coule au travers de ces fentes et se répand dans le sol. À quoi font penser, qu'est-ce qu'illustre Jérémie par cela? Nous allons le voir dans un instant. Revenons à aujourd'hui. À votre avis, est-ce que ça va être si simple que ça de boire de l'eau de la présence de Dieu dans notre vie cette semaine? Est-ce qu'on ne va pas être tenté par d'autres boissons? Est-ce qu'on n'aura pas envie de boire autre chose? Quel effort devons-nous faire en effet pour résister à des boissons qui certes sont peut-être agréables sur le coup, mais provoquent des surplus de sucre par exemple, ou ne provoquent l'ébriété si nous en buvons trop. Quelle discipline devons-nous avoir pour boire l'eau que Dieu nous donne et nous méfier d'autres boissons? Boire l'eau de la Bible, de la lecture de la Bible. Boire l'eau de notre communauté, de la vie de communauté. Avec quelle facilité nous laissons-nous essouffler par la vie en société, les loisirs, l'attrait du gain, notre ambition professionnelle, tant et si bien que nous en oublions de nous abreuver aux eaux paisibles de l'Évangile, de la foi vécue, de la piété chaque jour. Les Israélites avaient le même problème. Leur foi en Dieu les libérait des religions païennes, mêlées de violences, de pratiques avilissantes parfois, mais non, ils y retournaient quand même. Tu peux réafficher, si tu veux, le verset 13. C'est ça que Jérémie veut dire en parlant des citernes crevassées. C'est des pratiques que les Israélites avaient autour d'eux des pratiques idolâtres, des pratiques des cultes païens qui les environnaient, hein, tout naturellement, et qui les attiraient. Alors qu'ils avaient la révélation de Dieu, ils avaient plusieurs prophètes déjà au temps de Jérémie, et ils avaient du mal à rester fidèles à ce Dieu. Moi, je me retrouve tout à fait dans cet épisode des Israélites. Jérémie a exercé son ministère à la fin de la monarchie divisée et presque anéantie. Le royaume d'Israël, déjà divisé depuis des années entre une partie nord et une partie sud, est déjà, en partie en tout cas, envahi, décimé, démoli. Et Jérémie a affaire à des Israélites oublieux de leur passé glorieux. Tout désespérés qu'ils sont, ils ne se souviennent pas de l'intervention de Dieu. Verset 6 du même chapitre que nous avons cité dit « Ils n'ont pas dit, devant la difficulté qui était la leur, voilà le reproche que Jérémie leur fait, ou que Dieu leur fait au travers de Jérémie. Ils n'ont pas dit où est le Seigneur ? Qui nous a fait monter d'Égypte ? Qui nous a conduits dans le désert, dans une terre de plaine aride et de fosse, dans une terre de sécheresse et d'ombre de mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun être humain ? Le reproche que Jérémie fait, c'est que devant les difficultés, le peuple ne s'est pas tourné vers le Dieu qui les avait délivrés auparavant de l'esclavage en Égypte. Et non seulement ce peuple ne s'est pas tourné vers Dieu, n'a pas fait appel à lui, mais il est allé voir ailleurs. Verset 8. Les prêtres ne disent pas où est le Seigneur. Les spécialistes de la loi ne me connaissent pas. Les bergers se sont révoltés contre moi. Les prophètes parlent par le Baal, qui est une divinité païenne. Ils suivent ceux qui n'ont aucune valeur. Un peu plus loin, au verset 11, mais celui-là je ne te l'ai pas indiqué, Jérémie écrit « Mon peuple a échangé sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. » C'est triste. Présenté comme ça, on ne peut être que d'accord avec lui. Mais qu'ils sont bêtes ces Israélites, oh. Nous, si on avait été là, nous, on serait restés fidèles à Dieu. Hein, franchement, petits joueurs, les mecs, hein, franchement. Là, on se met au-dessus. Et pourtant, c'est là que Jérémie utilise l'image des deux eaux qui me rejoint dans ma difficulté quotidienne. Et je me dis, non, j'aurais peut-être eu le même problème que les Israélites, en fait. Les citernes crevassées, c'est donc des citernes qui étaient creusées dans le sol avec un revêtement qui était destiné, bien sûr, à empêcher l'eau de passer au travers. Et si le revêtement était mal fait ou s'il avait vieilli, s'il n'avait pas été entretenu, eh bien voilà, l'eau qui était accumulée, par exemple de l'eau de pluie, eh bien se perdait dans le sol. C'est tout le contraire d'une eau qui coule sans arrêt, d'une eau vive. C'est ce que veut dire le mot vif, hein, une eau vive, c'est l'eau qui coule tout simplement. Quand on entend le petit bruit d'un ruisseau qui coule à côté, ben c'est ça l'eau vive. Et alors, vous imaginez la scène entre une citerne sèche et un petit ruisseau qui coule. Vers quoi on a envie d'aller ? Ben vers le ruisseau, bien sûr. Mais les Israélites, eux, allaient vers la citerne. C'est le reproche de Jérémie. Et nous aussi. Trop facile de regarder les Israélites de haut en disant qu'on aurait mieux fait. Parce que moi, dans la semaine qui vient, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais aller vers la source ou vers la citerne ? On passe des journées entières sans dire un mot à Dieu. Citerne. On n'ouvre la Bible que le dimanche au culte. Citerne. Et d'ailleurs, comme on ne va plus au culte, on ne la lit que très peu. À Pâques, à Noël, à la Pentecôte, à... qu'est-ce qui reste ? L'Ascension, allez. Citerne. Vous les voyez, nos citernes ? On oublie de teinter nos relations les uns avec les autres par l'amour du prochain. On recherche son propre intérêt, on devient égoïste en fait. Citerne. On oublie l'esprit de service qui fait tant de bien à une vie de communauté, où on se met au service les uns des autres. Citerne. Sur le lieu de travail, on joue des coudes pour mieux progresser dans les échelons. On fait des coups bas aux collègues pour arriver à nos fins. Citerne. On cède aux luttes de pouvoir, même dans l'Église. À l'appât du gain, je viens de le citer. À la recherche effrénée de son propre confort. Citerne. On construit tant et si bien sa propre sécurité matérielle, financière, sociale, qu'on en oublie même la confiance en Dieu. Dieu qui nous dépasse, tout simplement. Citerne. On peut même en perdre le sommeil, la joie de vivre, la satisfaction d'une vie qui a du sens. Et voilà nos citernes. Et nos citernes crevassées. Notre bidon fendu. Et pendant ce temps, le ruisseau de Dieu coule et coule toujours. Nous entendons encore son clapotis, mais nous n'y prenons plus garde. Nous ne buvons plus de son eau. Nous ne vivons pas les encouragements d'un frère à la sortie du culte, ni les paroles réconfortantes d'une sœur lors d'un échange sur WhatsApp en semaine. Nous ne prenons pas la hauteur qui nous permet de mieux affronter nos semaines. La hauteur, par exemple, de lire un texte de la Bible sur notre quotidien. Nous ne vivons pas le réconfort, l'apaisement que procure un temps de prière. Cette idée d'avoir plaidé notre cause devant le Tout-Puissant, d'avoir été entendu. Et après, advienne que pourra, mais on a été entendu. Vous connaissez ce réconfort-là. Nous ne le vivons pas si nous nous contentons de ce qui envahit nos vies et que nous oublions de nous approcher de Dieu et de sa source. Nous ne laissons pas l'Esprit Saint produire en nous l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Ce n'est pas moi qui ai fait la liste, hein, c'est l'apôtre Paul. La fidélité, la douceur. La maîtrise de soi, Galates chapitre 5. Ni faire grandir en nous des dons, des charismes, ou même les susciter. Nous laissons couler à côté de nous le ruisseau de la grâce de Dieu, sans en goûter. Quel dommage. Les imbéciles dans l'histoire, ce ne sont pas les Israélites, chers amis, c'est nous. Parce que nous avons Jésus qui nous a dit « Dieu fait grâce », qui nous a dit « Dieu pardonne celui qui vient à lui, celle qui fait preuve d'humilité devant lui ». Alors nous sommes d'autant plus idiots que nous avons compris que l'évangile de Jésus-Christ est magnifique et nous ne l'utilisons que si peu dans notre vie de tous les jours. Avons-nous vibré pendant ces instants où nous retrouvons notre Dieu après un moment difficile, après des heures sombres peut-être de découragement, de tentation? Avons-nous vécu ces temps de libération comme d'un fardeau quand nous repartons d'un dialogue avec Dieu où nous avons pu parler franchement? Alors nos citernes, je vous propose que nous ne les aimions pas et que nous comprenions cette image que Jérémie donne, qu'elles ce ne sont que des citernes qui ne retiennent pas l'eau, et n'oublions pas ce ruisseau qui coule. Entendons le clapotis. dans notre vie de tous les jours. Ce n'est pas un bruit de torrent tonitruant. Peut-être c'est là notre problème. Si le ruisseau de Dieu, si la grâce de Dieu était assourdissante, nous serions contraints de la saisir, d'en boire. Mais non, Dieu a choisi de faire couler sa grâce dans nos vies comme un ruisseau. Et il faut que nous prenions le temps d'entendre le clapotis du ruisseau. Que l'image de Jérémie reste vive dans nos esprits, qu'elle nous montre notre stupidité. Et la mienne, je ne suis pas en train de vous faire la leçon, c'est moi qui suis sur la sellette là. C'est moi l'imbécile, plus que vous encore. Notre stupidité a creusé des citernes dont nous savons très bien qu'elles ne vont pas retenir l'eau. Que cette image nous donne envie de vivre une foi quotidienne avec Dieu, d'avoir un rapport quotidien à la grâce de Dieu. Dieu, je n'y arrive pas, et Dieu me répond, je t'aime quand même. Seigneur, j'ai peur, et le Seigneur me répond, je suis là. Seigneur, je suis plein de joie, et le Seigneur me dit, sois béni. Seigneur, je pleure, et le Seigneur me dit, un jour, j'essuierai tes larmes, peut-être pas aujourd'hui, mais je te promets qu'un jour, je les essuierai. Voilà le ruisseau de Dieu sur notre vie de tous les jours. Est-ce que, finalement, j'espère que ça nous fait un peu envie, ça, non ? Je vous invite à prier. Nous te remercions, Seigneur, pour cette image de Jérémie, le prophète, qui nous renvoie à notre quotidien, à des choix parfois malheureux que nous faisons dans notre vie de tous les jours. Seigneur, à vrai dire, nous serons plus heureux si nous utilisons cette eau de ta grâce, si nous te parlons, si nous t'écoutons, si nous laissons des temps où l'Esprit Saint produit son effet, si nous nous laissons envahir par la joie de ta présence. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs ce matin, je te prie que pendant cette semaine, nous ayons cela à cœur et que nous comprenions que c'est notre joie et notre paix de faire cela. Ce n'est pas une obligation pour te plaire. Enfin, oui, si, aussi, mais c'est aussi parce que c'est là qu'est notre bonheur, notre bien-être. Imprime en nous ces idées, Seigneur. Amen.